Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a en France plus de 3,5 millions de personnes mal logées, dont plus de 600 000 seraient même privées de logement. Comme à chaque fois qu'une crise majeure existe, l'Église se mobilise. Ainsi, un prêtre sillonne la France depuis des années pour tenter à sa manière de lutter contre cette crise du logement française. Ce prêtre, c'est le père Bernard Devers, fondateur d'Habitat et Humanisme. Et depuis 1985, avec cette association, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été relogées grâce à cette association. C'est ce que je vous propose de voir ce matin. Voilà, ce matin, donc, cette émission focus sur Habitat et Humanisme, cette association enfin, très connue de certains et mal connue de d'autres. Alors, autour du plateau, un certain nombre de personnes. Alix Guibert, qui est vice-présidente d'Habitat et Humanisme, qui est au téléphone avec nous depuis Paris, si je ne me trompe pas. Bonjour.
Bonjour.
Carole Poméon, qui est directrice du développement et qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans l'émission. François Guillemin, qui est président d'Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées, qui est avec nous en plateau. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Pierre Vigneault, vous êtes responsable com et recherche propriétaire solidaire pour Midi-Pyrénées. Bonjour.
Bonjour.
Et Lynn Richard, vous êtes résidente donc dans une maison intergénérationnelle à Toulouse. Et vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est et votre parcours. Bonjour.
Bonjour.
Pensez à bien parler devant le micro quand vous intervenez. Nous commençons avec vous, donc, Alix Guibert. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout a commencé ? Je disais, en fait, quand il y a des grandes crises, en général, l'Église s'en mêle, j'allais dire, mais surtout l'Église essaye de prendre sa part. Il y a une crise du logement en France qui ne date pas d'hier, et donc, un jour, il y a un prêtre qui s'est levé et qui a été aussi missionné pour s'attaquer à ce problème.
Oui, alors, je vais faire un petit rectificatif. Enfin, c'est pas un prêtre qui s'est levé, c'est un promoteur immobilier. Au départ, Bernard Devers était promoteur immobilier. Il avait créé sa propre boîte de promotion immobilière qui marchait très bien, qui s'appelait Innovation et Construction. Et c'est au cours d'une réalisation d'une opération, quand au cœur de Lyon, il avait acheté un immeuble et il avait proposé aux personnes qui habitaient cet immeuble d'être relogées ailleurs en attendant pour faire son opération immobilière. Il a appris qu'une des personnes âgées qu'il avait déplacées dans un autre logement avait fait une tentative de suicide. Donc il est allé la voir à l'hôpital et là, elle lui a dit, mais écoutez, je vous comprends pas, je vous ai trouvé un logement qui est bien, qui est même mieux que celui d'avant, etc. Et elle lui a répondu, vous croyez qu'avec votre argent, vous pouvez tout régler, ma vie était cet appartement et ce quartier. Et en fait, ça a été une prise de conscience, c'était le point de départ de Bernard Devers, il avait 40 ans, et qui a parallèlement, il avait cette réflexion pour la prêtrise qu'il avait eue très jeune, à 18 ans, et à l'époque on lui avait dit, écoutez, travaillez, puis revenez nous voir. Et en fait, il est devenu prêtre à 40 ans et il a décidé de mettre son métier de promoteur immobilier au service des plus pauvres. Donc c'est un promoteur qui est devenu prêtre. Il a été beaucoup aidé en ça.
Quand vous dites promoteur immobilier, moi j'ai lu qu'il était, enfin, c'est-à-dire promoteur immobilier, vous pouvez préciser peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers.
Il achetait des terrains, il construisait, il les vendait et sur Lyon. Il était vraiment, c'est un homme de l'immobilier, il faisait de la promotion, il repérait sur Lyon des terrains, des immeubles, et qu'il réhabilitait, qu'il achetait et qu'il vendait pour gagner de l'argent, tout simplement. Et il avait créé sa boîte qui marchait très très bien.
Alors vous...
Et du coup, à l'âge de 40 ans, voilà, donc changement radical, et beaucoup avec l'appui de Monseigneur de Courtrai. Bernard Devers a décidé de mettre son métier de promoteur immobilier au service des plus pauvres avec trois objectifs, et ça c'est l'origine d'Habitat Humanisme. 1. De loger toutes ces personnes dans des quartiers équilibrés, de ne pas les reléguer dans des quartiers en difficulté, de loger des personnes qui ont des très faibles revenus, c'est-à-dire des personnes âgées, des familles monoparentales ou des jeunes. Voilà, les loger dans des quartiers équilibrés. Deuxièmement, les accompagner, permettre à ces personnes, à partir d'une relation surtout faite par des bénévoles accompagnés de salariés, d'avoir un projet, de se reconstruire, d'être une présence aimante, une présence pour les aider à reprendre pied. C'est vraiment l'objectif bâtir pour qu'elle puisse se reconstruire. Et le troisième élément qui était à l'époque une grande innovation, comment mobiliser le secteur de l'économie et particulièrement de la finance, comment au cœur de la finance, pour financer notre action, concevoir des outils qui portent cette préoccupation des plus pauvres. Et voilà comment, depuis des années, on a développé toute une gamme de placements solidaires. C'est le début de la finance solidaire pour financer à la fois l'acquisition des logements, parce qu'il faut bien fabriquer des logements, et on a besoin d'argent pour ça, mais aussi d'avoir des fonds pour accompagner les familles. Voilà.
Alors, missions. On y reviendra peut-être un petit peu au fur et à mesure de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du père Bernard Devers? Parce que pour l'avoir déjà croisé, c'est quand même un personnage. je lisais, enfin, personnage, et puis qui, comment dire, il a. Est-ce qu'il est missionné d'une certaine manière? Vous dites qu'il était soutenu par le cardinal de Courtrai, mais est-ce qu'il a été missionné par l'Église sur cette question du logement?
Alors, missionné, c'est pas un mouvement d'Église. Bernard Devers, quand il a au départ commencé l'association a essayé de se rapprocher du Secours catholique en espérant d'être la branche immobilière du Secours catholique, mais toutes ces questions immobilières qui mettent en jeu pas mal de fonds, il y a quand même pas des risques, mais c'est vraiment un vrai métier. Le Secours catholique n'a pas souhaité à l'époque s'engager dans cette voie, et l'Église, c'est un regard bienveillant de l'Église, mais faut pas oublier que Bernard Devers donc a été ordonné prêtre et a eu des missions dans l'Église, c'est-à-dire que parallèlement à l'association qu'il a développée, qui est devenue aujourd'hui un mouvement national avec 55 associations, parallèlement à ça, il a été prêtre dans le diocèse à la Mulatière, qui est une paroisse du sud de Lyon, et puis après, pendant une dizaine d'années, il a été l'aumônier du centre anticancéreux de Lyon, le centre Léon Bérard. Voilà, il a eu des missions dans l'Église, mais pas en tant que... un regard bienveillant quand même de l'Église et de nombreux évêques par rapport à la mission d'Habitat Humaniste, puisque nous avons la chance dans beaucoup de diocèses de pouvoir collaborer avec des paroisses et des évêques qui aident Habitat Humaniste dans sa mission. Mais c'est un mouvement initié par un prêtre, c'est un mouvement qui est aconfessionnel. Dans lequel il y a énormément dans les équipes de chrétiens qui nous rejoignent et on affiche que c'est une association créée par Bernard Devers, promoteur immobilier, ce qui dit qu'il est toujours promoteur immobilier, et prêtre. Voilà, on affiche évidemment.
Alors, sur le site d'Habitat Humaniste, on voit donc le père Bernard Devers écrit des éditos. Alors j'ai regardé le dernier édito en date de septembre. Donc il a pas sa langue dans sa poche, puisque il tape sur François Hollande, mais non. Enfin, il dit la chose suivante: le président donc en privilégiant le moi si j'étais président a oublié le nous, et il invite comme le pape François à construire des ponts plutôt que démolir des murs. Moi, ce qui m'avait frappé quand je l'avais rencontré, alors pardon, l'émission n'est pas consacrée à lui, mais malgré tout, quand même, c'est un peu votre étendard. On a l'impression que c'est une course, en fait, presque... Enfin, c'est une course folle que d'essayer de constamment trouver des logements et essayer de trouver des solutions. Je citais 25 000, alors c'est vrai que c'est énorme, mais quand on voit les chiffres cités en introduction, 600 000 personnes qui sont privées de logement en France, on a l'impression d'un homme qui court constamment après l'impossible. Alors, il est pas tout seul à courir, heureusement, mais est-ce que c'est quelque chose aussi qui le caractérise ?
Oui, la grande idée force de Bernard Devers et qui fait beaucoup le rejoignent, c'est de se dire qu'on n'est pas toujours dans l'interpellation. Nous, la force d'Habiter Humaniste, c'est d'être dans le concret. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se lamenter, que face à l'immensité du problème du logement, qu'on ne prétende pas répondre à tout, on n'a pas une vocation à faire du qualitatif, à avoir des milliers de logements. La seule aiguillon d'Habitat Humaniste, c'est d'être là où les gens souffrent, d'avoir des réponses pertinentes et de montrer que c'est possible. Voilà. C'est ce côté positif, c'est dire oui, on peut, c'est aujourd'hui possible, nous l'avons montré, on peut acheter des logements dans des cages d'escalier, on peut créer des pensions de famille, ce sont des petits collectifs où on peut accueillir accueillir des personnes tout cassées. On peut prendre des construire de l'intergénérationnel pour favoriser, pour être des bâtisseurs de liens entre des personnes âgées seules et des jeunes, par exemple. Oui, c'est possible. Et c'est justement cette invitation que Bernard Devers, vous dites, qui sillonne la France. Il dort tellement peu, il me dit toujours qu'il dort vite, parce qu'il est voilà, habité par ça en disant comment sur le terrain, comme ce qui se passe à Toulouse, dans la région Midi-Pyrénées, des hommes et des femmes se lèvent en disant c'est un acte presque de résistance à une logique qui exclut, qui enferme dans du négatif et dans du... toujours ces idées noires, c'est pas possible, si justement c'est possible. Alors c'est vrai qu'on fait ça à une petite échelle, mais ça veut dire que pourquoi pas à grande échelle. Voilà.
Alors je vous pose la question, pardon, j'ai pas fini avec vous, hein, Alix Guibert. François Guillemin, est-ce que c'est ça qui vous a donné aussi envie de rejoindre Habitat Humanis, c'est voir cette énergie positive et ce désir de bâtir?
Alors tout à fait, j'ai été contacté, précédemment je m'occupais des chantiers sur le diocèse de Toulouse, et puis j'ai été contacté par Habitat et Humanisme pour en prendre la responsabilité. Première réaction, ça a été une surprise, mais compte tenu de l'ampleur des problèmes et de la philosophie d'Habitat et Humanisme, j'ai pas hésité très longtemps.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par la philosophie, c'est-à-dire?
Et cette philosophie qu'Alix Guibert vient d'expliquer, cette nécessité d'être positif et de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions globales, mais qui répondent au maximum à des cas particuliers. Et ça, je trouve que c'est cette priorité du concret sur le théorique est vraiment important. Et c'est ce qui m'a poussé à accepter de prendre la responsabilité sur Midi-Pyrénées.
Alors Alix Guibert, avant que vous nous donniez plus complètement peut-être les réussites d'Habitat Humanisme pour nous mettre l'eau à la bouche et nous donner envie de continuer à suivre cette émission longuement pour voir après comment vous vous y prenez, j'ai lu que le père Bernard Devers régulièrement se bloquait des après-midi pour répondre aussi à tous les courriers, à toutes les personnes qui le sollicitent, et on imagine que vous ne répondez pas à tout le monde. Cette attention particulière qu'Habitat Humanisme essaye d'avoir aussi à toutes les demandes, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une vue de journaliste?
Ah non, c'est une réalité. C'est l'un des côtés de Bernard Devers qui me sidère toujours, comment lui, qui est capable, qui est aussi à l'aise dans les sphères de l'administration, des ministres, avec les promoteurs immobiliers, dans les mairies, dans les conseils régionaux, etc., donc avec un niveau, avec des partenaires du monde de l'économie, comment souvent, parce que notamment, par exemple, il célèbre, il a des messes le dimanche à Saint-Bonaventure le soir, beaucoup de gens viennent le voir, comment il est capable à chaque personne d'essayer de l'écouter, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver des solutions. Et je l'ai vu un jour partir, une nuit, on lui avait signalé une femme à Paris qui était à la rue, et bien il était à chercher avec son bébé, sa voiture, il a demandé un porte-bébé dans sa voiture pour qu'il puisse ramener la maman et le bébé et trouver une solution sur Lyon. Enfin, je trouve que c'est une grande force d'avoir encore cette capacité de s'émouvoir de situations concrètes et d'essayer de trouver des solutions. C'est comme ça qu'il nous a aujourd'hui, alors que c'est pas forcément le cœur de métier d'Habitat Humanisme, nous on travaille plus dans des logements pour que des personnes puissent s'inscrire dans la durée, se reconstruire, parce que pour se reconstruire ça prend du temps, donc on est moins dans des situations d'urgence que après dans des logements plus pérennes. Mais quand même, Bernard Deur, au dernier conseil d'administration la semaine dernière, nous a tous demandé d'accueillir des réfugiés, de porter, voilà. Donc cette capacité de réactivité, de nous bousculer de chaque fois, d'aller plus loin, de pas nous installer dans des métiers qui sont les nôtres, et de vraiment d'accueillir nos frères réfugiés dignement, et d'avoir cette attention. Et son cœur bat toujours, et c'est ça aussi qu'il fait encore que beaucoup se lèvent derrière lui, parce que il nous donnait cette capacité à, devant des situations, de trouver des réponses, ce que disait M. Guillemin, de ne pas s'habituer, se devenir une machine, si vous voulez. C'est pas du tout ça l'esprit d'Habitat Humanisme. Vraiment, c'est trouver des solutions adaptées, de montrer que c'est possible, voilà.
Alix Guibert, je citais le chiffre donc de 20 000 personnes logées depuis 1985. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être d'autres chiffres qui disent l'ampleur aujourd'hui de ce qu'est Habitat Humanisme?
Alors aujourd'hui, Habiter Humaniste est devenu un mouvement, donc parti de Lyon il y a 30 ans, il y a 55 associations de plein exercice, avec 3500 bénévoles, majoritairement des bénévoles qui sont auprès des familles, pour les accompagner, pour les aider, pour être une présence aimante, un regard qui construit, voilà. Et puis, c'est aussi, vous savez qu'Habiter Humaniste, c'est aussi une foncière, une société. L'association a créé une société foncière qui achète sur, qui est l'outil patrimonial de tout le mouvement, qui nous permet d'acheter des appartements à Toulouse et sur toute la France. Et cet outil patrimonial, il y a aujourd'hui cette foncière, cette société qui fait appel à l'épargne, faire appel à tout épargnant en demandant est-ce que vous acceptez d'investir, de mettre un petit peu de vos économies dans cette foncière pour nous permettre d'acheter des logements. Et aujourd'hui, cette foncière réunit près de 7000 actionnaires, des personnes privées qui ont orienté sur une fraction de leur épargne, choisissent de soutenir dans la durée Habiter Humaniste par ce biais. Voilà. Et c'est aussi, on a développé donc une gamme de produits d'épargne solidaire, c'est une, au total une vingtaine, 20 000 épargnants aussi, qui, à travers leur patrimoine, leurs économies, choisissent des produits solidaires dans lesquels il y a un partage pour aider Habiter Humaniste. Voilà, donc c'est un mouvement, c'est d'hommes et de femmes qui, sur le terrain, décident, sur leur territoire, de s'engager pour que des hommes et des femmes puissent avoir accès à ce logement avec des loyers très très bas, puisque la moyenne des loyers est entre 4 et 6 euros du mètre carré. Et que c'est donc des loyers accessibles, donc les personnes payent un loyer et les charges, mais voilà, ça se veut. Voilà. Et surtout, au cœur de nos villes, là où il fait bon vivre, surtout.
Eh ben, merci beaucoup, Alix Guibert. Donc, je rappelle, vous êtes vice-présidente d'Habitat Humaniste de cette introduction, cette présentation en son absence du père Bernard Devers et d'Habitat Humanisme. On va faire une première pause musicale et puis après, on va essayer de voir plus concrètement pour nos auditeurs comment vous vous y prenez, comment eux, ils peuvent prendre leur part. Et puis, en cette fin d'émission, on essaiera de voir aussi ce qu'il se vit à Toulouse et en Midi-Pyrénées du côté d'Habitat Humanisme.
Au bord de la banlieue, un petit coin silencieux, on n'y va qu'un dimanche sur deux, obligé un peu. Des fleurs parfois, ça peut ensoleiller les lieux, et pour le père, un petit contrieux, est-ce qu'ils seront heureux? Le regard toujours malicieux, le geste gracieux, grande dame, gentil monsieur, vivent à petit feu. Et si l'amour c'est de l'hébreu, sûrement pas pour eux. Entre frangins, frangines, c'est affectueux, on les appelle nos vieux. La mer a les cheveux entre le gris, le bleu. Le ciel du nord nous dit quand il pleut au fond de ses yeux. Un vrai cordon bleu, ses pâtes, ses omelettes aux œufs, je les mangerai comme un bienheureux sur la tête d'un pouilleux. Le regard parfois ombrageux, inquiet, soucieux, le petit bonhomme émeut par son esprit facétieux. Au moment pourtant des adieux, le cœur est douloureux, plein d'amour pour ces gens si précieux qu'on appelle nos vieux. malheureux pour qu'il offre à ses amoureux l'éternité ou mieux, et qu'il bénisse ces êtres merveilleux qu'on appelle nos vieux.
Ce matin, donc, cette émission focus sur Habitat et Humanisme, donc cette association donc qui essaye de loger ou de reloger des personnes qui sont en difficulté de ce côté-là. Je rappelle que nous étions avec Alix de Guibert, qui est vice-présidente d'Habitat et Humanisme au début de cette émission. Carole Poméon qui nous a rejoint, qui est directrice du développement. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et voilà, et je rappelle qu'en plateau, il y a François Guillemin, qui est président d'Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées, Marie-Pierre Vigneault, vous êtes responsable com et recherche propriétaire solidaire Midi-Pyrénées, et Lynn Richard, qui est résidente d'une maison intergénérationnelle. Alors, on va continuer avec vous, Carole Poméon. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous poser, peut-être, on ne l'a pas fait avec Alix Guibert, revenir un peu sur les chiffres du mal-logement en France, parce que à force de voir défiler ces chiffres, on finit par avoir l'impression ou parfois le sentiment qu'en fait ces chiffres seraient gonflés par les associations. On lit qu'il y a 3,5 millions de mal logés en France. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il y a 600 000 personnes qui seraient même privées de logement. J'ai envie de dire, même question.
Oui, alors c'est vrai que les chiffres sont énormes et recouvrent des situations très variées. Donc les chiffres que j'ai, moi, qui sont ceux de la Fondation Abbé Pierre, on est à plus presque 900 000 personnes qui sont privées de logement personnel. Donc cela regroupe les personnes sans domicile, des gens qui vivent en chambre d'hôtel, des personnes qui habitent dans des habitations de fortune ou des personnes qui sont hébergées chez des tiers. Donc c'est pas forcément des gens qui n'ont pas de toit, mais c'est des toits soit qui sont très très précaires, soit des toits qui ne leur appartiennent pas. Et puis on a quand même 150 000 personnes qui sont très clairement à la rue. Voilà, donc ces chiffres sont ce qu'ils sont, et quoi qu'il en soit, en France, ils restent inadmissibles. Voilà. Et puis les personnes qui sont fragilisées par rapport au logement.
Alors c'est ça, quand on lit 3,5 millions de mal logés, qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? C'est-à-dire juste que c'est trop petit, ou c'est parfois un peu insalubre, ou...
Non, donc il y a presque 900 000 personnes qui sont privées de logement personnel. Et ensuite vous avez presque 3 millions de personnes qui vivent dans des conditions de logement très difficiles, soit parce qu'ils n'ont pas de confort. Alors pas de confort, ça veut dire pas de WC par exemple dans l'appartement, pas d'eau courante, pas de chauffage, ou alors des personnes qui vivent dans des situations de surpeuplement accentué. Hein, donc surpeuplement accentué, c'est vraiment, on est dans des situations qui sont invivables pour les personnes. Hein.
Alors, sur ce volet, évidemment, le sujet de l'émission, c'est pas le mal logement en France, mais malgré tout, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui a été fait sous le quinquennat de François Hollande, et qui se fait par ailleurs largement étrier sur bien des sujets? Est-ce que sur la question du logement, il y a eu des avancées, il y a eu des choses positives que salue Habitat et Humanisme? Et si oui, lesquelles?
Alors, ce que je voulais dire quand même par rapport à ces chiffres du mal logement, il y a une situation qui s'améliore malgré tout, c'est que on a des logements qui ont plus de confort, c'est-à-dire que le nombre de logements sans eau courante, sans WC, sans chauffage, etc., est quand même en forte diminution, mais depuis une dizaine d'années. Donc ça, c'est quand même un point positif. Mais après, il y a d'autres indicateurs qui ne sont pas bons. On a quand même plus 50% de personnes sans domicile de 2001 à 2012. Et puis on a aussi toute la question de la précarité énergétique qui va s'accentuant, c'est-à-dire que des personnes qui ont l'impression d'avoir froid chez eux, qui n'arrivent pas à se chauffer, le chiffre est de plus 72%.
Voilà, enfin, vous faites bien malgré tout de souligner la bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on en entend suffisamment des mauvaises. Sur la question du quinquennat, qu'est-ce que vous diriez en fait?
Alors, c'est vrai que la question du logement était une priorité pour François Hollande. On a toutefois un bilan qui est en demi-teinte. Alors, il y a eu deux lois très importantes qui ont été menées par la ministre Madame Duflot. La loi de mobilisation foncière en janvier 2013 qui permet à l'État de vendre des terrains à des opérateurs de logements sociaux, des organismes HLM, à des prix bien inférieurs au prix du marché pour produire du logement très social. Donc cette loi qui a été votée en 2013, le temps que les choses démarrent, commence à produire son effet, et là on espère qu'une centaine de grosses opérations pourraient voir le jour.
Une centaine de grosses opérations, ça représente combien de logements et pourquoi cette mesure que vous venez de citer est vraiment importante en fait?
Elle est importante parce que quand on parle de terrain de l'État, c'est aussi des terrains qui peuvent être propriété de la SNCF ou d'organismes qui sont rattachés à l'État. Et il en existe un certain nombre quand même de ces terrains potentiels. Voilà, le nombre de logements correspondants, je suis désolée, je ne l'ai pas en tête. Donc il y avait cette loi de mobilisation foncière et puis une autre loi importante qui est la loi Allure, qui renforce la protection des locataires, qui plafonne les frais d'agence ou les modalités d'augmentation de loyer. Donc là, il y a tout un ensemble de dispositifs en faveur des locataires et en particulier des plus démunis. Alors c'est vrai que cette loi Allure a quand même un peu crispé les professionnels de l'immobilier et c'est jamais bon de crisper les professionnels ou les propriétaires privés qui peuvent se sentir soit remis en cause, soit pas protégés. Donc nous, justement, on essaye de rassurer notamment les propriétaires privés et de les accompagner dans leur chemin vers la location pour que les choses se passent bien. Voilà, et puis donc après, il y a un certain nombre de dispositifs fiscaux, notamment le dispositif Pinel, ce sont des aides à l'investissement locatif, où les personnes qui investissent avec des loyers plafonnés, alors qu'ils sont quand même malheureusement beaucoup plus hauts que ceux qu'on pratique, peuvent avoir des avantages fiscaux. Et puis il y a la loi Égalité Citoyenneté, là, qui est en train d'être votée, qui circule entre le Parlement et le Sénat, qui cherche quand même à promouvoir la mixité.
D'accord.
Voilà, alors... Et puis il y a un autre élément quand même du bilan du quinquennat de François Hollande, c'est le fait d'obliger les communes urbaines à avoir 25% de logements sociaux.
Et non pas 20%, alors, c'est ça comme,
Et non plus 20%, donc ça c'est quand même aussi une avancée.
D'accord. Alors sur Habitat Humaniste, donc, qui face à ce problème se retrousse les manches et plus même depuis bien des années, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les moyens qui sont utilisés? Alors on a entendu épargne solidaire, donc il y a gestion des biens location, etc. Vous avez même un système de carte bancaire. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les grands moyens qui sont mis en place par Habitat Humaniste pour essayer de trouver tous ces logements?
Voilà, alors le moyen principal, Alix l'a évoqué quand même tout à l'heure, c'est notre foncière d'Habitat et Humanisme, qui est un des premiers acteurs de l'épargne solidaire et donc qui émet des actions tous les ans. D'ailleurs, la foncière fête ses 30 ans dans très peu de temps, là, dans quelques jours. Voilà, qui émet des actions qui sont achetées notamment par des particuliers. Donc cette année, on aura une augmentation de capital qui se situe autour de 20 millions d'euros, ce qui est quand même assez notable comme somme. Et donc cet argent est investi dans des logements qu'on achète, qu'on réhabilite ou qu'on construit. Voilà, on a d'autres leviers d'action. On mobilise des fonds de l'épargne salariale. Vous savez que... dans le domaine de l'épargne salariale, les entreprises sont obligés d'avoir un fléchage sur une épargne qu'on va dire solidaire. Donc là aussi, on arrive à lever des fonds, soit qui vont s'investir dans la foncière, soit qui nous permettent de financer un peu de fonctionnement. Et puis, on a beaucoup de produits, donc des livrets d'assurance vie, des fonds communs de placement, effectivement la carte bancaire ou une partie des intérêts reversés à Habitat et Humanisme pour contribuer, nous accompagner dans notre action.
Donc, l'essentiel, donc, c'est d'inciter ou de faire en sorte que tout à chacun place ses économies chez vous, d'une certaine manière.
C'est ça. Place ses économies chez nous. Et en fait, ça nous permet de sortir de la mécanique du don, même si on bénéficie aussi de dons tout à fait régulièrement, comme n'importe quelle association. Mais en fait, les gens qui ont de l'épargne le placent chez nous, et si ils souhaitent pouvoir le récupérer au bout de 10 ans ou au bout de 15 ans, eh ben, pour payer les études de leurs enfants ou le jour où ils en ont besoin, ils peuvent récupérer cette épargne. Donc en fait, c'est un levier qui est encore plus important que celui du don.
D'accord, et c'est une épargne profitable, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des réserves en se disant je préfère les mettre dans une grande banque que chez Habitat Humaniste, j'aurais peut-être plus de chances de les retrouver avec une plus-value plus importante. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui auraient ces réserves ?
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on est accompagné par les pouvoirs publics au sens large du terme, puisque la plupart des placements bénéficient de dispositifs fiscaux avantageux. Hein, donc, quand on investit dans la foncière, les investisseurs ont des dispositifs fiscaux qui, de fait, enfin, ils peuvent défiscaliser, et de fait, ça constitue déjà une rentabilité par rapport à l'investissement. Donc ce point, c'est quand même important de le noter. Hein. On l'a aussi sur le don aux associations qui permettent aux particuliers de défiscaliser. Donc ces dispositifs sont d'une certaine façon accompagnés par les pouvoirs publics. Ensuite, la rentabilité, comment vous expliquer ? Il y a, en gros, sur les actions de la foncière, notre objectif, c'est d'arriver à suivre l'inflation, donc de faire en sorte que notre actif reste valorisé, donc nous l'entretenons, nous faisons des travaux régulièrement dedans pour que cette action vale quelque chose, ne perde pas de valeur. Voilà. Après, on peut pas s'engager auprès des propriétaires en leur disant vous allez avoir 3% d'intérêt, mais comme je vous l'explique, les leviers fiscaux font que de fait, ce sont des produits qui sont très intéressants pour les gens qui souhaitent investir.
Et la carte bancaire que vous citez, comment ça marche en fait ?
Alors écoutez, en fait c'est Alix Guibert qui est la grande professionnelle parce que moi je m'occupe plus du développement des projets immobiliers d'Habitat Humanisme.
Donc en fait c'est tout simplement, on peut dire juste c'est une carte bancaire classique, mais à chaque prélèvement il y a une somme en fait qui revient à Habitat Humanisme.
Voilà, il y a une somme qui revient à Habitat Humanisme sur chaque fois que les personnes prélèvent des espèces au guichet, voilà.
D'accord, alors ça c'est les moyens, alors quelles solutions Habitat Humanisme donc trouve des logements ?
Alors attendez juste, si vous me permettez, sur les moyens... L'autre moyen qui est très important et pour lesquels on souhaite la plus grande mobilisation possible, c'est mobiliser les propriétaires privés.
Voilà, en effet. Oui. Hein?
Voilà, il faut savoir que aujourd'hui, dans les nouveaux logements qu'on amène sur le marché pour les personnes en difficulté, on en a la moitié qui sont notre propriété, donc via la foncière, et on a la moitié qui viennent de propriétaires privés qui nous mettent à disposition leur logement pour loger des personnes que nous accompagnons. Donc je souhaite quand même le noter parce que c'est une part très importante de notre activité. Et donc ce sont ces propriétaires et solidaires qui nous donnent leur logement soit en location, soit en mandat de gestion pour pouvoir loger les publics qui nous intéressent.
Alors même question hein, pour aller, comment dire, pour aider à lever les craintes ou les réserves. Je ne sais pas comment on va vous engager à ce que si il y a eu des soucis ou des dégradations ou autres, vous rendez l'appartement en état. Enfin, comment rassurer les gens qui seraient tentés par cette aventure ?
Alors on a deux voies de mobilisation. Soit on mobilise avec l'aide des agences immobilières à vocation sociale, du mouvement Habitat Humanisme ou des agences immobilières à vocation sociale partenaires. Hein, donc là, c'est une mobilisation qu'on appelle en mandat de gestion. Donc là, le propriétaire loue directement au locataire avec un bail classique. Le locataire accède à un statut de droit commun, ce qui est quand même intéressant aussi pour les personnes qu'on suit. Et donc là, il y a des systèmes d'assurance impayés de loyer qui ont été négociés à des tarifs préférentiels et qui permettent d'assurer notamment la question de l'impayé. Et puis on a un autre mode de mobilisation qui, celui-là, est très très rassurant pour les propriétaires, c'est que nos associations deviennent locataires de l'appartement en direct, hein, c'est elles qui signent un bail avec le propriétaire, et elles sous-louent le logement aux personnes fragilisées. Et donc là, l'association fait complètement écran et porte le risque locatif. Voilà. Donc c'est là, le propriétaire est sûr de toucher son loyer et de retrouver un appartement en bon état. Et du coup, en échange de ce service qu'on lui rend, on lui demande de nous pratiquer un loyer qui soit adapté aux personnes qu'on souhaite loger. Voilà.
Alors pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, sur les solutions logement, donc vous avez cité ces appartements, j'ai l'impression qu'il y a différents, entre guillemets, différentes formules, il y a donc ces appartements, il y a aussi des pensions de famille, on va parler après donc des maisons intergénérationnelles. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je sais pas, les grands types de logements que vous essayez de mettre, comment dire, de mettre à disposition?
Alors bon, donc effectivement, on a ce qu'on appelle le logement diffus, hein, donc c'est des logements à l'unité qui sont dans des quartiers équilibrés. Ça représente à peu près 2/3 des logements qu'on met à disposition aujourd'hui des personnes. Donc c'est des logements qui sont bien placés dans des immeubles mixtes et dans des quartiers équilibrés. Et puis depuis 1997, on a développé donc les pensions de famille. Alix en a un petit peu parlé. Ce sont des habitats collectifs d'une vingtaine de logements, des studios, des petits logements autonomes avec des espaces communs et notamment une grande cuisine conviviale et la présence de deux hôtes de maison qui sont financés par la direction départementale de la cohésion sociale et qui assurent un accompagnement et un regard bienveillant sur ces personnes qu'on loge qui sont quand même en situation de très grande fragilité, hein. Ce sont des gens qui ont connu la rue ou des parcours d'hébergement chaotiques, des personnes en souffrance psychique. Voilà. Et puis, dans toutes ces maisons, on a une équipe de bénévoles aux côtés des salariés qui permettent de rompre l'isolement et d'organiser des animations. Donc aujourd'hui, on a 50 maisons ouvertes en France, ce qui représente à peu près 900 logements. Voilà. Donc ça, on a développé tout ce programme-là depuis 1997, et c'est une vraie réussite pour le mouvement.
Eh ben, oui, vous vouliez ajouter une dernière chose? Allez-y, Carole, avant qu'on fasse cette pause.
Non, oui, juste, je voulais dire que face à la montée du vieillissement, on se questionne aussi beaucoup sur l'avenir des personnes âgées et la précarisation des personnes âgées. On a aussi la situation des familles monoparentales qui est très difficile à vivre pour ces personnes. Et donc, on développe là depuis 8 ans des habitats intergénérationnels pour permettre que les locataires se connaissent, pour permettre des services entre des personnes âgées, des familles monoparentales et des jeunes. Donc, l'association HH Midi Pyrénées pourra parler de ce type d'habitat.
On va le faire, exactement.
Voilà.
Merci beaucoup, Carole Poméon, pour ces explications. Voilà, comme ça, on a bien compris quels sont les moyens et les solutions et comment on peut vous aider. On fait une deuxième pause musicale et puis après, on va voir ce qui se vit en Midi-Pyrénées et entre autres ces fameuses maisons intergénérationnelles avec entre autres le témoignage de Lynn Richard qui est dans l'une de ces maisons.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface.
Même leurs traces. pour ne pas oublier, pour tout changer.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages,
métissage.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines.
On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Dans le Grand Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission focus sur Habitat et Humanisme, donc cette association donc, qui vient en aide aux personnes qui sont en situation de mal-logement et qui donc, a son actif depuis 1985, donc le logement de à peu près 20 000 personnes. Alors, pour finir cette émission, François Guillemin, dites-nous, en Midi-Pyrénées, à quoi ressemble Habitat et Humanisme ? Je sais pas, vous en êtes où de votre développement et quels sont vos projets ?
Bon. Alors, en Midi-Pyrénées, Habitat Humanisme a 20 ans d'âge, puisque l'association Midi-Pyrénées a été créée il y a exactement 21 ans. Aujourd'hui, nous logeons 91 personnes. Alors, un tiers dans la maison intergénérationnelle dont il a été fait mention juste avant la deuxième pause, et les deux tiers dans du diffus.
Le diffus, ça veut dire quoi ?
Le diffus, c'est, comme on l'a expliqué, c'est, comme Carole Pommelman l'a expliqué, ce sont des appartements qui sont situés à différents endroits de la ville, mais qui ne sont pas regroupés. C'est-à-dire qu'ils vont être insérés dans l'habitat de la ville, dans à peu près tous les quartiers de la ville. Sur ces deux tiers, donc, se répartissent moitié-moitié entre les propriétaires solidaires et ceux qui sont propriétés de la foncière Habitat et Humanisme, et qui ont été financés par les dons, comme alors, ça a été expliqué.
Quels sont vos projets ? Il paraît que vous allez récupérer un Carmel dans le Gers.
Alors ça, dites-nous. Les projets de développement aujourd'hui sont de plusieurs natures. Alors effectivement, pour l'instant, Habitat Humanisme Midi-Pyrénées est surtout concentré sur Toulouse, puisque nous n'avons que quelques appartements à s'insérer dans le Lot. Mais récemment, Bernard Devers s'est porté au secours, si j'ose dire, d'un ami qui était propriétaire d'un ancien Carmel à Condon, a racheté ce Carmel et nous demande de réfléchir comment faire évoluer ce Carmel. Ce Carmel, aujourd'hui, il accueille des pèlerins qui sont sur le chemin de Saint-Jacques, et il accueille aussi des personnes en grande difficulté, qui, souvent des hommes seuls, et qui sont accueillis. C'est pas tout à fait la structure propre d'Habitat Humanisme, et donc on est en train de travailler avec l'association de l'ancien Carmel de Condon pour la faire évoluer vers une structure de type Habitat Humanisme.
D'accord, donc voilà, on a envie de dire bon courage, mais non, c'est quand même une belle opportunité. Lynn Richard, vous êtes résidente dans une maison intergénérationnelle, alors est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une maison intergénérationnelle d'abord ? C'est à quoi ? C'est entre des gens on va dire d'âge moyen et des personnes âgées ? C'est entre des étudiants et des personnes âgées ?
Les deux, les trois.
Les trois ?
Les trois.
D'accord. Et alors vous, comment vous êtes arrivé dans cette maison intergénérationnelle ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans tout nous raconter, hein, sans être trop indiscret, comment vous en êtes arrivé là ?
Mais écoutez, après avoir traversé des moments difficiles, un parcours, avec, je dirais plutôt une grosse perte d'activité, et qui a engendré automatiquement une perte d'argent aussi. Hein. Donc je me suis retrouvée à la rue. J'ai été hébergée par une amie. Et suite à ça, le prêtre Jean-Christophe Cabani de la paroisse des Minimes, qui était en service à l'époque, aujourd'hui qui n'est plus, m'a appelé pour me dire, écoute, faudrait que tu appelles ce numéro, j'ai parlé de toi, présente-toi et puis tu verras. Donc du coup, j'ai suivi ses conseils, je suis allée, j'ai rencontré les personnes appropriées. J'ai monté un dossier par rapport à... Et à la suite de ça, une semaine après, j'ai eu une réponse comme quoi ben, j'avais un appartement. Sans savoir, sans visiter, c'était la grosse surprise.
Alors vous disiez que vous l'aviez vu en fait ce logement, c'est ça ? Vous l'aviez vu sortir de terre même quelque part ?
Oui, oui, oui. Parce que bon, j'habite le quartier depuis 2002, à Tabominim. Et effectivement, c'était une habitation de particulier qui a été démolie, qui est resté pendant un moment sans construction et ensuite qui a commencé à sortir de terre comme un champignon. Et je n'ai jamais su que c'était justement une habitation sociale.
Alors, est-ce qu'on y est bien dans une maison intergénérationnelle et quel intérêt ou quelle joie vous trouvez à être avec des gens de différentes générations ?
Alors, est-ce qu'on est bien ? Oui. Parce que quand on sort d'une situation comme la mienne, je pense que nous sommes plusieurs dans cette habitation, c'est un endroit où on se repose, où on nous accueille, on a du soutien, on a de l'aide. Donc c'est un lieu d'accueil, que ce soit pour les jeunes, parce qu'il y a des étudiants, il y a des mères de famille seules, il y a des personnes âgées, il y a la solidarité entre nous. On essaye d'être solidaires, de s'entraider. Et la vie communautaire, sans être communautaire, parce que nous avons quand même nos appartements particuliers, on a un lieu où on se retrouve tous.
Vous avez quoi dans ces cas-là ? Vous avez une cuisine, un salon commun ?
Dans nos... Ah oui, 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 on a une grande salle commune où il y a un lieu de convivialité. Il y a des salles de jeux pour les enfants. Il y a un parc, enfin un petit jardin derrière pour tout le monde. Il y a une salle télé, ordinateur pour les personnes qui ne peuvent pas avoir tout ça chez eux. Et après, nous avons bien sûr des laveries, Non, ça se passe, enfin franchement, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'organisations par rapport à des ateliers cuisine, des ateliers sorties, des ateliers...
Voilà, en tout cas, vous n'avez pas l'air malheureuse quand
non.
On vous voit comme ça. C'est... Marie-Pierre Vigneault, est-ce que vous pouvez nous dire, donc, ça a été redit tout au long de cette émission, qu'évidemment, il ne s'agit pas de trouver que des logements, mais d'accompagner ces personnes, et par amour, j'ai envie de dire, hein, presque, et puis par désir de les aider à reprendre pied, et puis aussi côté propriétaire pour rassurer tout à chacun. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, vous, votre rôle ou le rôle de l'accompagnement autour de cette maison intergénérationnelle ?
Alors, il faut déjà préciser que cette résidence intergénérationnelle accueille 33 familles. 8 de manière pérenne, c'est-à-dire ce sont des appartements qui sont dédiés à des seniors dont on sait qu'ils n'auront pas ensuite à se rechercher un logement, et c'est justement l'intérêt de leur offrir cet appartement dans lequel ils pourront rester tranquillement tant qu'ils le pourront. Et 25 appartements qui sont en résidence sociale. Donc là, ce sont des personnes effectivement qui sont là de manière temporaire pour une durée de 6 mois renouvelable jusqu'à 2 ans. Au bout de 2 ans, justement, tout le travail de l'accompagnant et de la coordinatrice de maison, parce qu'il faut aussi souligner sa présence, elle est là sur place, pas toute la semaine, mais quand même 4 jours sur 5, et elle est là justement pour être à l'écoute des différents résidents, répondre à leurs questions et mettre en place toute cette animation qui permet de faire en sorte qu'ils se retrouvent dans les locaux communs, par exemple, dans la grande cuisine, ou bien par le biais diversité d'activités qu'on fait à l'extérieur. Il y a des sorties vers l'extérieur, on va au cinéma, on va visiter une bibliothèque, etc. Donc le rôle de la coordinatrice est vraiment très important et c'est une personne en plus très dynamique qui booste un peu tout le monde.
Est-ce que voilà. C'est une des marques de fabrique d'Habiter Humaniste, vraiment ce travail d'accompagnement?
On l'avait souligné précédemment, c'est effectivement le rôle essentiel, l'habitat. Bon, c'est la première chose, on va dire que c'est ce qui permet de répondre aux besoins élémentaires de chacun, la sécurité d'avoir un toit au-dessus de la tête. Mais après, c'est tout l'accompagnement qui fait que la personne va sentir qu'un regard se pose sur elle, ce qui est parfois, ça paraît bizarre, mais c'est parfois extraordinaire. Quelqu'un qui était dans la rue, ben vous remarquerez, les gens qui sont dans la rue, personne ne les regarde. Hein. Même on détourne le regard quand
peut-être
on
pas
passe.
Peut-être pas personne, mais enfin, certaines
très
personnes
peu.
Ne les regardent pas. Oui.
Voilà. Et donc, c'est vrai que quelqu'un qui, du coup, n'a plus d'emploi, etc., se retrouve replié sur lui-même et a perdu complètement le lien social nécessaire à la vie classique. Donc, notre rôle, c'est justement d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent se renforcer et pour qu'elles sentent ce regard bienveillant sur eux et qu'elles retrouvent confiance en elles-mêmes parce que le fond du problème, il est souvent là. C'est-à-dire qu'elles ne savent plus ce qu'elles savent faire même. Elles ont complètement perdu pied. Donc le rôle de l'accompagnant, c'est d'aller accompagner la famille, de la voir régulièrement, de sortir avec elle éventuellement à droite ou à gauche. Bref, de lui faire comprendre qu'elle peut reprendre une vie classique.
Et ben voilà, merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler d'Habitat Humaniste, donc Habitat Humaniste qui a besoin de bénévoles, hein. Vous pouvez même venir pour l'accompagnement aux familles et même un groupe de bricoleurs pour aider à la restauration et de certains biens immobiliers, ou si vous avez envie de faire confiance pour votre logement, votre épargne. Voilà, on sait le problème du logement, on en parle souvent à cette antenne en France, et donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux, Habitat Humaniste et Habitat Humaniste Midi Pyrénées. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.